C'était la crise. Vous vous souvenez? Cela se passait jadis, il y a une éternité, l'année dernière. La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. On ne savait même pas où porter les yeux. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place, apparemment intouchées. Je suis journaliste. J'ai eu l'impression de me retrouver face à une réalité dont je ne pouvais pas rendre compte parce que je n'arrivais plus à la saisir. Les mots même m'échappaient. Rien que celui-là, la crise, me semblait tout à coup aussi dévalué que les valeurs en bourse. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache pour chercher anonymement du travail. La ville de Caen m'a semblé la cité idéale. Ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop petite, ni trop grande. J'avais décidé d'arrêter le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce livre raconte cette quête, qui a duré presque 6 mois, de février à juillet 2009. Les noms des personnes et des entreprises ont été volontairement modifiés. À Caen, j'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée écrire ce livre. Florence Aubenas.
Le quai de Ouistreham, de Florence Aubenas, adaptation Nadine Hegels. Deuxième épisode.
Tout le monde m'avait mise en garde.
Si tu tombes sur une petite annonce pour un boulot sur le ferryboat à Ouistreham, fais attention. N'y va pas. Ne réponds pas. N'y pense même pas. Oublie-la.
Parmi ceux que j'ai rencontrés, personne n'a travaillé là-bas. Mais tous en disent la même chose.
Cette place-là est pire que tout. Pire que les boîtes de bâtiments turcs, qui te payent encore plus mal qu'en Turquie et parfois même jamais. Pire que les ostréiculteurs qui te font attendre des heures entre les marées avant d'aller secouer les poches en mer par n'importe quel temps. Pire que dans le maraîchage, qui te casse le dos pour des endives ou des carottes. Pire que les grottes souterraines de Fleury, ces anciennes carrières de pierre, puis abris anti-aériens pendant la guerre, devenus aujourd'hui des champignonnières, qui te laissent en morceaux au bout d'un après-midi de travail. Pour les pommes, on en bave aussi, mais la saison commence plus tard. Ces boulots-là, c'est le bagne et la galère réunis. Mais tous valent mieux que le ferry de Ouistreham.
Nous vous rappelons que, conformément au code du travail, votre présence au rendez-vous est indispensable. Toute demande de modification de rendez-vous doit être exceptionnelle et justifiée.
Comme tous les matins, je viens d'arriver à Pôle emploi. J'y ai mes habitudes maintenant. Ce matin, j'attends la réponse pour un poste d'agent de nettoyage dans un centre médico-social, de veilleur de nuit dans un hôtel à Caen, de femme de ménage dans une parfumerie au centre commercial Mondeville 2 et de vendeuse dans une jardinerie. Sur l'ordinateur, le programme qui recherche les offres correspondantes à mon dossier s'est mis en marche. Essentiellement du ménage, un peu de vente, des travaux saisonniers, en somme tout ce qui passe et ne nécessite aucune qualification. Certains jours, il n'y en a pas plus d'une vingtaine pour toute la Basse-Normandie. Devant moi, les offres du jour ont commencé à apparaître. Je les connais presque toutes par cœur. Ce sont les mêmes qui tournent en boucle parfois pendant des jours. C'est à ce moment-là que les deux petites lignes sont apparues sur mon écran. Société de nettoyage à Ouistreham cherche employé pour travailler sur les ferries. Débutant accepté. La voilà, la fameuse petite annonce. J'appelle immédiatement, c'est irrésistible. Il faut se présenter le jour suivant à 9h30 au siège de l'entreprise avec papier d'identité et photo en couleur. Le lendemain, un ciel blanc a tout enveloppé. Pas tout à fait du brouillard, plutôt une brume légère comme de la gaze, qui semble assourdir tous les bruits et dont s'échappe de temps en temps un petit bateau ou un cycliste. Le quai Charcot à Ouistreham longe le canal qui vient de Caen jusqu'à l'endroit où il se jette dans la Manche. Les locaux de l'entreprise sont plantés là, un peu en amont du large. Nous sommes une dizaine, hommes et femmes mélangés. Il se révèle vite que le gaillard à moustache ne peut être que le patron, le grand patron, comme je l'entendrai désigner plus tard, ou plus respectueusement encore par son seul prénom, Jeff, que les gens du ferry aiment faire sonner dans leurs conversations. Jeff habite une autre ville, à plus de 100 km de Ouistreham. Tous les jours avant l'aube, il avale 2 heures de route en voiture pour arriver sur le port au point du jour, peu avant qu'accoste le premier ferry qui, lui, vient d'Angleterre. Jeff nous regarde l'un après l'autre, assis autour de la table. Personne n'a osé enlever son manteau. Un type a même gardé son casque de moto et ses gants, comme s'il s'attendait à se faire éconduire et de telle manière qu'il lui faudrait décamper précipitamment.
Vous sortez vos papiers d'identité, je les photocopie. Vous ferez une formation demain matin. Vous commencerez après-demain. Il y a 3 ferries par jour, à 6h, à 14h, à 21h30. On fait le ménage pendant l'escale entre le moment où le bateau arrive et celui où il repart. Pour commencer, vous serez embauché sur l'horaire du soir, 6 jours par semaine, congé le mercredi. La vacation à bord va jusqu'à 22h30. Ça fait 1 heure payée en salaire de base, après on verra. Pas de questions ? Ah, une dernière chose. Si vous venez de Caen, il vous faut une voiture. Il n'y a pas de bus correspondant à vos horaires de travail. Je vous conseille aussi de vous regrouper pour partager les frais d'essence, sinon vous mangerez toute la paye en carburant. Vous toucherez un peu plus de 250 euros par mois, avec des primes les jours fériés ou les dimanches. Pas de regrets ? Tout le monde a bien entendu, personne ne reprend ses billes ?
Il me regarde.
Vous avez une voiture ?
Je mens immédiatement. Oui, bien sûr. Jeff continue de me regarder.
Si vous le dites.
Il inscrit nos noms, nous rend les cartes.
C'est bon, vous pouvez partir.
Ça y est, c'est fait. On a signé pour 6 mois, cela a duré 10 minutes, et hormis Jeff, je n'ai presque aucun souvenir de ceux qui étaient avec moi autour de la table. Avant de commencer à chercher du travail à Caen, c'est exactement ainsi que j'imaginais les embauches, aussi simples et brutales qu'une paire de bras à louer. Maintenant, je n'en reviens pas. Cette facilité me stupéfie. J'ai fini par intégrer les séries d'épreuves et de génuflexions requises pour le moindre remplacement d'une semaine. Dans le bus du retour, j'en suis même à me demander si c'est vrai, si je suis vraiment engagée. Il me reste à trouver une voiture pour demain. Je pense d'abord à Philippe. On s'est rappelé 1 ou 2 fois depuis notre déjeuner à Bayeux, et au moment où il décroche, je me souviens qu'il n'a aucun moyen de transport. Je me dis que c'est idiot de lui téléphoner, mais on discute un peu. Philippe a toujours quelque chose à raconter. C'est un de ses bons côtés. Là, il vient de trouver un contrat, 3 mois dans les espaces verts, et il m'invite dimanche. Je n'arrête pas de penser à la voiture pendant qu'il me parle. Il le comprend et enfonce le clou.
À ta place, j'aurais vraiment peur de ne pas en trouver une. Si tu te plantes, t'es morte. C'est marrant que tu aies pensé trouver un boulot alors que tu n'as pas de voiture. Pour le logement, on ne te demande jamais rien, tu peux dormir sous les ponts. Mais la voiture, impossible d'y couper. Je te croyais plus maligne, hein, tout le monde sait ça. Ouais, t'as intérêt à te bouger pour en trouver une, sinon t'es morte.
Bah et toi, t'as pas de voiture non plus, comment tu fais ?
Moi, c'était le divorce ou la voiture. J'avais plus les moyens de payer les deux. On s'est séparés comme ça, sans réfléchir, mais depuis j'y arrive plus du tout avec la pension. J'ai failli retourner vivre chez mes parents. Et pour le boulot, t'as envie de connaître toute la vérité vraie ? Le contrat de 3 mois dont je te parlais, c'est pas dans les espaces verts. J'ai dit ça pour t'épater, je pensais que ça faisait classe, ça sonnait bio. En fait, je vais ranger des œufs dans des alvéoles à l'usine. Avant, pendant presque 1 an, je déchargeais les camions d'animaux à l'abattoir, et encore avant, je filetais les poissons, j'ai pué la marée pendant 2 mois. Et tout ça, je l'aurais peut-être même pas eu sans mon œil gauche. Tu sais, celui qui me donne la cotorep.
Et qui plaît aux femmes. Il faut que je trouve une voiture. Je ne vois plus qu'une personne pour me sauver. Victoria. Victoria, je l'ai connue le 19 mars 2009, quand les syndicats ont appelé tous ensemble à une grande marche nationale contre la crise. On ne pouvait trouver meilleur jour pour rencontrer Victoria. Victoria doit avoir 70 ans environ. Elle a été femme de ménage toute sa vie, ce qui a achevé de sceller notre rencontre. Victoria habite vers le quartier Vaucelles, derrière la gare, l'ancien faubourg des cheminots qui est paisiblement en train de s'embourgeoiser. Entre son lilas et son seringa, Victoria élève 3 poules et 1 lapin, qui changent régulièrement, mais baptisés Jeannot pour l'éternité. Avec ses fossettes sous sa frange coupée court, Victoria a quelque chose de ces jolies pionnières qui souriaient à l'avenir radieux sur les affiches ouvrières des années 60. Je galope vers le quartier Vaucelles. Victoria range les papiers sur la table de la salle à manger par petits tas devant elle. Elle fait des listes de choses à faire, de personnes à appeler. Elle a entendu parler d'un couple d'amis qui veut vendre une vieille voiture dont il ne se sert plus. Ils ne sont pas pressés. Ils pourraient me la prêter quelques semaines, le temps de me dépanner avant de s'en séparer. On part immédiatement la voir. Ses propriétaires l'ont surnommé « le tracteur » à cause de son bruit et de son allure. C'est une Fiat vert-bouteille, moteur diesel, 1992, avec siège enfant à l'arrière. Je ne peux pas m'empêcher d'embrasser ses propriétaires. C'est le tout petit matin. La veille, pour être sûr de ne pas arriver en retard, j'ai fait deux fois le trajet avec le tracteur, ma nouvelle voiture. Le rendez-vous est à 5h30 au port d'embarquement du ferryboat pour la matinée de formation. Il est bien trop tôt lorsque je passe devant les locaux de la société le long du canal. L'embarcadère est plus loin, tout au bout de la jetée. Au bout d'un parking désert, le terminal de la gare maritime n'est pas encore allumé. Devant le poste de contrôle qui délimite la zone sous douane, un homme et une femme se serrent dans la nuit, harnachés de gilets jaunes fluorescents surdimensionnés qui claquent au vent, comme un déguisement pour une soirée de Halloween. Sur sa mince béquille, leur scooter paraît un jouet. Les présentations sont vite faites. Elle s'appelle Marie-Lou, elle a 20 ans, et en général, c'est elle qui parle pour eux deux. En montrant le garçon, elle dit « mon homme », puis tape des pieds bruyamment parce qu'il fait froid et que la semelle de ses baskets est fendue. Elle attend une promo pour en racheter. Comme moi, elle vient d'être embauchée. Son homme, non. Il l'accompagne parce que sans elle, il ne sait pas quoi faire. Marie-Lou et son homme habitent Caen. Ils ont mis presque une heure avec leurs gilets fluorescents et leurs tout petits scooters à lutter contre les bourrasques pour parcourir les 15 kilomètres de route. Sans nous connaître davantage, nous nous jetons dans les bras l'une de l'autre. Oui, nous ferons du covoiturage ensemble, comme Jeff nous l'a recommandé. Oui, je passerai la chercher tous les jours chez elle. Oui, nous ne nous quitterons plus. Oui, nous avons l'impression d'être sauvés, parce que chacune vient d'apercevoir dans les yeux de l'autre la même inquiétude à l'idée de plonger dans le monde féroce du ferry. Nous sommes 5 nouveaux embauchés ce jour-là à l'embarcadère. Arriver jusqu'au ferry est un nouveau périple. Il faut pénétrer dans la zone sous douane en montrant un badge avec une photo fournie par la société. Parfois, des vigiles sortent de la guérite et s'accroupissent pour ausculter les essieux ou les habitacles en parlant de trafic et de clandestins. Nous nous postons devant un bâtiment composé d'une petite salle nue flanquée de 2 toilettes. Nous attendons l'autocar de la compagnie qui nous conduira jusqu'au ferry. La distance entre les deux ne doit pas excéder 700 mètres, mais il est interdit de les effectuer à pied. Entre l'attente, le trajet en car, l'attente à nouveau avant de grimper à bord, il faut compter une bonne demi-heure supplémentaire. Les autres employés arrivent, un à un, sur le quai. Une quarantaine peut-être. Des filles surtout. Quelques hommes aussi. Personne n'a assez dormi. Chacun garde le nez dans son reste de sommeil, le visage sans couleur et encore froissé de la nuit, les cheveux alourdis. Peu de mots, même pour demander une cigarette. Quand l'un sort un paquet, les regards quêtent, les mains se tendent. Des hochements de tête miment un merci, parfois un reniflement. Les gestes ressemblent à des frissons, tremblants et raides, tendu contre l'humidité qu'on sent prête à se faufiler entre les couches de vêtements à chaque mouvement, comme des doigts glacés jusqu'à la peau tiède. Nous portons tous la blouse rayée verte et blanche, siglée du nom de la boîte. À bord, il est interdit de monter avec autre chose que son badge et un stylo, qui permet de signer la feuille de présence. Sur un panneau lumineux, des lettres vertes, brillantes, écrivent dans le sombre du ciel, mer calme, peu agitée. On sent, plus qu'on ne la voit, au bout du quai, une ombre silencieuse d'un gris plus clair, avec parfois des traînées blanches d'écume. Le car arrive. Sur la passerelle, nous attendons que les passagers descendent pour investir les lieux. Bientôt, je ne ferai plus attention à eux, happé bien plus sûrement par le monde qui va devenir le mien. Mais c'est mon premier jour, et je ne peux m'empêcher de dévisager tous ces gens avec leurs valises, à qui je lance consciencieusement des « bienvenus » retentissants. Personne ne répond. Parfois, l'un d'eux me regarde, aussi étonné que si le paquet de cordage enroulé sur le pont lui avait adressé la parole. je suis devenue invisible. Morissette, la chef d'équipe, est désignée pour nous former. Elle a les cheveux très courts, blond platine, un physique taillé pour l'ouvrage. Son humeur monte et descend comme la mer, et nul ne sait quelle Morissette va répondre quand on s'adresse à elle. Ça lui plaît. Elle en joue. Marie-Lou et moi restons collés l'une contre l'autre, en essayant de ne pas commettre d'impair.
Vous deux, là, vous allez faire les sanis.
C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire, qui lui-même signifie toilette. Faire les sanis, c'est laver les toilettes, tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Parfois, on dit à un employé homme « tu vas faire les sanis ». Mais ça ne se réalise jamais. C'est forcément pour faire une blague. Même avec les fortes têtes ou les souffres-douleurs. Les hommes passent l'aspirateur, l'auto-laveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traverser de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique avec deux pulvérisateurs et une vingtaine de chiffons, puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry, si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les 2 mètres. Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent 4 couchettes superposées et un cagibi de toilette, comprenant lui-même un lavabo, une douche et des WC. Elle se jette à terre, si brusquement que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle, elle s'ébroue pour me repousser et, à genoux sur le carrelage, se met à tout asperger avec un pulvérisateur du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo, vérifie le rideau de la douche. Tout a duré moins de 3 minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Morissette se rue hors du cabinet de toilette. Dans la cabine, elle époussette tout ce qui peut l'être, fait briller les miroirs, ramasse les papiers. 30 secondes. Dans le même temps et le même espace, s'agitent au moins 2 autres employés qui changent les draps des couchettes et passent l'aspirateur. Tous réussissent à s'éviter. Les bras et les jambes se croisent au millimètre près. Le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire.
Tout doit être impeccable. Faites surtout attention à ne laisser aucun cheveu. N'oubliez pas de prendre un chiffon de couleur différente pour les water, d'éponger chaque goutte dans la douche, surtout si elle a servi récemment, de ne laisser aucun savon usagé, de jeter tous les rouleaux de papier toilette entamés.
J'oublie tout immédiatement, dans un effarement proche de la panique.
Maintenant, allez-y.
Je manque me trouver mal. Morissette nous fait un grand sourire.
Vous avez de la chance, elle est de bonne humeur.
En un quart d'heure, mes genoux ont doublé de volume. Mes bras sont dévorés de fourmis et j'écume de chaleur dans le pull que j'avais cru prudent de garder. Je n'arrête pas de me cogner dans les gens, les meubles. Je ne suis pas loin d'éborgner une collègue avec un pulvérisateur. Régulièrement, j'entends derrière moi le cri de Morissette qui déchire le vacarme de la coursive.
Florence !
Ça veut dire que j'ai fait une connerie.
Viens là. Tu vois rien dans la douche ? Les poils là sur le côté ?
Il faut recommencer à frotter devant elle, à 4 pattes dans les sanies, pendant qu'elle continue de cravacher le reste de la troupe sans regarder derrière elle.
Allez les filles, dépêchez-vous. Faut tenir la cadence. On n'a pas fini.
Je repars dans l'autre sens, à garde. Non sans ressentir un certain soulagement, quand je me rends compte que la personne que je viens de renverser est la seule que je connaisse, Marie-Lou. Sa métamorphose est stupéfiante.
Dis donc, est-ce que t'es rouge ? Et trempée ? On dirait que t'es passée à la machine à laver.
Tu t'es pas vue, t'es mauve. Je t'aurais pas reconnue.
Partout, ça court, ça rigole, ça moucharde, ça s'épaule. Ça n'arrête jamais, dans une agitation et un bruit que rien ne fait retomber. C'est un raffut de seaux qui s'entrechoquent, d'eau qui coule, de fracas d'aspirateurs. Chez les filles, les jeunes appellent les vieilles. Les vieilles disent la racaille pour les jeunes. Des hommes, personne ne dit rien. Avec une indulgence qui parfois ressemble à du mépris. Eux non plus ne se risquent pas à trop parler, sauf quand ils draguent. L'heure de travail dure 1 seconde et 1 éternité. En signant les feuilles de présence, je distingue enfin les visages autour de moi. Il y a le monde entier sur le ferry. Des belles, des moches, des demi-clochardes, des mères de famille, des petites paysannes, des créatures ou des top modèles. Mais on se côtoie, on se bouscule, dans une sorte de fraternité que lisse le port de l'uniforme et la dureté de la tâche. Je reconduis Marie-Lou en voiture pour fêter notre nouvel attelage. Elle a déjà deux boulots dans le ménage, en CDD bien sûr. Il y a celui du matin, son préféré, pour lequel elle voudrait décrocher le CDI. Elle en énumère les qualités.
Le chef est gentil, il n'y a pas trop à faire, on n'a personne sur le dos. C'est de 6h30 à 8h30 dans une grande surface avant l'ouverture. Le soir de 18h45 à 20h, je nettoie des bureaux chez Youpi Metal.
Son supérieur l'a convoqué l'autre jour.
Vous téléphonez avec votre portable pendant les heures de travail. Vous faites la conversation avec vos collègues. Vous allez être licencié.
Marie-Lou a reçu une lettre qu'elle n'a pas bien comprise. Il en ressortait qu'elle devait aller s'expliquer au siège de Youpi Metal à Lisieux. Son homme a haussé les épaules. Il ne sait pas lire.
Lisieux en train, ça fait cher, et en scooter, ça fait loin.
Le rendez-vous tombait à 9h, ce qui ne lui laissait pas le temps de finir son premier boulot. Toute l'affaire lui paraissait hors de prix et compliquée. Le chef lui a fait miroiter que la feuille de paye est plus intéressante quand on quitte un travail.
Tu vas toucher d'un coup le rattrapage des congés payés, des morceaux de primes. Ça te fera au moins 200 euros en plus, une sorte de parachute doré, quoi.
Marie-Lou s'est laissée pousser dehors.
Ça fait de l'argent quand même, non ?
Elle a signé pour le ferry. Nous calculons ensemble comment faire pour arriver à l'heure. Depuis quand, le trajet prend une demi-heure. Pour attraper le car qui nous conduit au ferry, il faut être à 21h sur le port. Autrement dit, nous avons à peu près une heure de déplacement et d'attente dans chaque sens. Comme seul le temps passé à bord est payé, on perd 2 heures pour en gagner une. Le visage de Marie-Lou ne reflète aucune contrariété.
Tu penses pas que c'est vraiment trop de temps gâché pour le salaire qu'on touche ?
Bah, c'est comme d'habitude. Moi, pour le boulot du matin, j'ai 3 heures de trajet.
Elle ne comprend pas. D'où je sors pour ne pas savoir que c'est normal.
C'était « Le quai de Ouistreham » de Florence Aubenas, adaptation Nadine Eggels. Deuxième épisode avec Hélène Losseur et Olivier Chauvel, Stéphane Varupen, Nicky Marbeau, Catherine Matelli, Fanny Richert, Fanny Touron, Jacques Leplus, Yann de Monternon. Équipe de réalisation, Olivier Dupré, Adrien Roch, Julie Guénet, Jean-Mathieu Zande. Le quai de Ouistreham est publié aux éditions de l'Olivier.
Jardin.
Merde.
Y'en a marre des pauvres. Les pauvres ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana, y'en a marre des pauvres. Y'en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Marre des pauvres, marre des pauvres. Ils font chier, ils font chier. Ils mangent encore plus mal que nous. Hey. Hey, tu peux taper dans tes mains. Ouais, en écoutant ton disque. Allez vas-y fais-le, ça va faire super. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop plein le cul. Y'en a marre des pauvres. Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre, vous gâchez le bonheur des riches. Y'en a marre des pauvres. Heureusement les très très riches, tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Y'en a marre des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Marre des pauvres.